18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Que les assurances prennent leurs responsabilités, et AXA en particulier, d'assumer une clause qu'on avait signée dans nos contrats.
La colère d'un grand chef sur Europe 1. Colère qui fait tache d'huile ce soir. Le monde de la restauration engage la bataille contre les compagnies d'assurance.
Restaurateur versus assureur, c'est donc le grand dossier de ce 18-20.
Une première médicale en France, un patient Covid vient de subir une greffe pulmonaire. Ses poumons avaient été quasiment détruits par le virus.
Mieux vaut tard que jamais, la Chine félicite Joe Biden avec une semaine de retard. Moscou attend la proclamation officielle. Les agences américaines chargées de la sécurité des élections affirment ne détenir aucune preuve d'une fraude.
13 novembre 2015, 13 novembre 2020, 5 ans après les attentats, le témoignage d'un survivant et le récit de celui qui était Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, à la fin de ce journal.
La Bourse de Paris qui finit en haut, 0,33% de progression. 5380 points. Et puis la tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Un temps printanier presque partout, ça c'est la bonne nouvelle.
Oui, et presque, c'est très important parce que c'est sur le nord-ouest et au bord de la Méditerranée que le temps sera le plus agité. Partout ailleurs, du soleil et des températures encore très douces pour la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ils aimeraient bien voir le bout du tunnel. Depuis hier soir, les restaurateurs savent qu'ils ne sont pas prêts de l'apercevoir, mais il y a autre chose qui les inquiète, certains sont même très en colère contre leurs assureurs.
On va entendre le coup de gueule qu'a poussé ce matin sur Europe 1 Yves Candebord. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il résonne encore ce soir. De quoi s'agit-il? Les restaurateurs doivent se battre pour conserver le bénéfice d'une clause pandémie que leurs assurances ont décidé d'annuler, sans consulter personne, en tout cas pas les intéressés. On fait le point avec vous, Clément Le Saffre. Qu'est-ce que c'est que cette clause pandémie et pourquoi va-t-elle être supprimée?
Pour bien comprendre, en fait, il faut rappeler que tous les restaurateurs sont assurés. Ça, c'est la loi. Seulement, il y en a une partie, 7% très précisément, qui ont une clause spécifique dans leur contrat. Une clause qui mentionne qu'ils peuvent être indemnisés pour une fermeture liée à une épidémie. Ça fait quand même une dizaine de milliers de restaurateurs qui avaient donc l'espoir que leur assureur compense leurs pertes liées au Covid. Ce ne sera pas le cas dans l'éventualité d'un nouveau confinement.
Alors, vous restez avec nous parce qu'on va écouter le grand chef Yves Candebord ce matin sur Europe 1. Il était très, très en colère.
Moi, je suis dans le cas de figure, justement, où j'ai cette clause où je suis assuré pour la pandémie. Le fait de faire cet avenant, ils sont en train de justifier que cette clause, elle est réelle. Alors, moi, le signer, j'ai envie de vous dire, dans l'avenir, oui, je vais être dans l'obligation de le signer parce que toutes les assurances vont me l'imposer, mais que les assurances prennent leur responsabilité, et AXA en particulier, d'assumer une clause qu'on avait signée dans nos contrats.
Oui, Yves Candebord accuse les assureurs de ne pas être solidaires. Il n'est pas le seul d'ailleurs chez les restaurateurs. Clément Le Saffre, pourquoi décide-t-il subitement de revoir leur contrat?
Bien, en fait, les assureurs le font parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'ils nous disent. En fait, à partir de l'année prochaine, eux-mêmes ne seront plus assurés par ceux qui les assurent, les réassureurs, pour les contrats incluant une indemnisation en cas de pandémie. Sans ce parachute, bien, les compagnies d'assurance sont donc obligées de répercuter la décision sur leurs clients. Les restaurateurs ont donc jusqu'au 31 décembre pour accepter ou refuser l'avenant à leur contrat. S'ils refusent, il sera résilié d'office et ils devront changer d'assureur. Mais toutes les compagnies sont de toute façon sur la même ligne. L'an prochain, la pandémie ne pourra figurer sur aucun contrat.
Clément Le Saffre.
Bien, et tout à l'heure, à 18h20, vous aurez la réponse d'AXA via Guillaume Bory, directeur général délégué AXA France. Il sera notre invité. L'épidémie de Covid-19, une première en France, une greffe pulmonaire réalisée par l'hôpital Foch à Suresnes. Performance d'autant plus notable que les poumons du patient avait été quasiment détruit par la maladie, Victor Delande.
Oui, ce patient avait été hospitalisé au CHU de Lille. Il a passé plusieurs semaines en réanimation, dans le coma, sous ventilation respiratoire. Les médecins ont ensuite tenté l'oxygénation extracorporelle de son sang, mais rien n'y a fait. Son état s'est dégradé au fil des semaines. Seule solution, donc, pour le sauver, la transplantation pulmonaire. Comme il n'avait pas de comorbidité, l'opération était possible. Elle a eu lieu le 1er novembre dernier. Ça s'est très bien passé. Le patient va bien, comme l'explique le professeur Édouard Sage, chirurgien thoracique à l'hôpital Foch de Suresnes.
On s'attendait à ce que ça puisse être plus difficile que ça, mais ses deux poumons fonctionnent parfaitement. Ça, c'est une première victoire. La deuxième, c'est qu'on est face à un malade qui a eu beaucoup de semaines de réanimation avant. Donc, il a toutes les conséquences de ça aussi engendrées, auxquelles on y rajoute une intervention extrêmement lourde. Donc, c'est sûr qu'il va bien, mais il va falloir beaucoup de récupération et plusieurs semaines encore d'hospitalisation, pour ne pas dire plusieurs mois avant qu'il se rétablisse.
C'est une première en France, pas dans le monde. Il y a déjà eu des greffes similaires sur au moins un patient aux États-Unis. On recense aussi un cas en Chine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'opération reste exceptionnel. Mais selon le chirurgien qui a réalisé cette prouesse, c'est une arme supplémentaire et donc une source d'espoir pour les patients qui font des formes très graves du SARS-CoV-2.
Victor Dolande, sur le plan strict des mesures sanitaires, rien ne bougera donc avant le 1er décembre. Le Premier ministre l'a confirmé hier soir. Les commerçants ont l'espoir d'obtenir le droit de rouvrir avant les fêtes, mais il leur faudra tenir jusqu'à cette date.
Oui, le gouvernement a déjà acté le report des régionales de mars à juin.
Ouais, il suit en cela les recommandations du rapport Debré sur la question. Le projet de loi proposant de reporter les régionales de mars à juin 2021 sera soumis au vote de l'Assemblée nationale dans les toutes prochaines semaines. C'est ce qu'indique Matignon ce soir.
Alors, quant à la progression de l'épidémie, on constate, ça se confirme, un léger ralentissement.
C'est ce que dit Santé publique France dans son rapport hebdomadaire. Est-ce lié au couvre-feu ? C'est une hypothèse, dit l'agence, mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui est certain, c'est que la circulation du virus est moins importante. Le nombre de nouveaux cas confirmés recule de 14% sur une semaine, mais les admissions à l'hôpital continuent d'augmenter de 14% également.
L'enquête maintenant, l'enquête sur l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice, avec une photo qui intrigue les policiers.
Oui, et cet élément qui les intrigue, c'est la photo retrouvée dans le portable de l'assaillant qui a tué 3 personnes à Nice. Cette photo, c'est celle de Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Un message audio qualifiant la France de pays de mécréants a également été retrouvé dans le téléphone du terroriste qui est toujours hospitalisé.
Les États-Unis maintenant, Donald Trump continue de nier la victoire de Joe Biden, mais il est de plus en plus isolé.
Oui, y compris dans son propre camp sur la scène internationale. Moscou continue d'attendre les résultats officiels. Pékin, en revanche, dit respecter le choix du peuple américain et adresse officiellement ses félicitations à Joe Biden, le futur président démocrate, qui est également conforté par les agences de sécurité des élections. Circuler, il n'y a rien à voir, puisqu'il n'y a pas eu de triche, Sonia Lidry.
Oui, l'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. C'est ce qu'affirment des agences américaines chargées de la sécurité des élections. Alors que Donald Trump continue de crier à la fraude, elles assurent qu'il n'y a eu aucune preuve d'un piratage de la présidentielle. Trump a déclaré sur Twitter qu'un système électoral avait effacé 2,7 millions de votes en sa faveur à travers le pays et en avait réattribué des centaines de milliers à son rival démocrate Joe Biden. Des informations infondées, mais côté républicain, très peu osent élever la voix et contredire le président. Seule une poignée d'élus ont reconnu la victoire de Joe Biden. Le refus de l'administration Trump de reconnaître sa défaite est sans précédent. Dans une interview à la télévision américaine, Barack Obama a déclaré que cela constituait un dangereux chemin qui décrédibilisait la démocratie en Amérique. Donald Trump est bien décidé à continuer la bataille juridique jusqu'au bout. Frustré, il n'a pas eu le moindre échange avec des journalistes depuis le jour de l'élection, ce qui n'est pas dans ses habitudes.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal avec Christophe Lamarre, 18h09. 5 ans après, la France commémore donc les attentats meurtriers du 13 novembre 2015.
Et la musique que vous entendez, c'est un extrait du concert qui est donné en ce moment sur YouTube. Queen of Stone Age a voulu faire un cadeau aux victimes et aux rescapés du Bataclan avec des morceaux inédits. Il y a aussi un appel aux dons pour venir en aide aux associations comme Life for Paris. On écoute son président qui s'est recueilli ce matin sur les lieux des attentats. Arthur Desnouveau.
On est donc parti du Stade de France où on a fait la première cérémonie et à chaque endroit, en fait, on a lu les noms des victimes décédées et fait une minute de silence en hommage à toutes les victimes. On a marché entre certains lieux qui étaient proches dans le 11e et sinon, on a pris un espèce de mini cortège officiel pour aller d'un lieu à l'autre. C'était très étrange de se retrouver avec un cortège réduit et sans la participation des familles ou des Parisiens qui viennent d'habitude nombreux. Il manquait une dimension fraternelle et communautaire qu'on a d'habitude, nous les victimes, le 13 novembre. Les hommages étaient retransmis sur Twitter et sur Facebook en live, ce qui permettait aux familles qui le souhaitaient de pouvoir se connecter et suivre ça depuis chez elles. Et puissent se sentir faire partie d'un tout un peu plus grand que chacun d'entre nous. Ce qu'on voit, c'est qu'au 11 septembre, les commémorations perdurent et on dit souvent que le 13 novembre est un peu le 11 septembre français.
Arthur Desnouveau, le président de l'association Life for Paris, au micro de Chloé Trion.
Oui, anniversaire dans un climat, évidemment, on le sait, particulier, il y a la crise sanitaire et les menaces sur la sécurité.
Oui, ces commémorations se sont donc déroulées en tout petit comité devant tous les lieux visés par les terroristes. Les politiques étaient là, la maire de Paris, le Premier ministre notamment, l'institution judiciaire aussi, on a vu l'ancien procureur de Paris, François Molins.
Et notre invité, justement, pour en parler dans le journal de 18h, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui était évidemment en poste au moment de ces attaques. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. D'abord, quelles sont les premières images, les premiers souvenirs qui vous remontent quand vous pensez à cette terrible nuit d'horreur ?
Moi, j'ai en tête l'appel d'un journaliste du Monde qui habitait juste au-dessus du bar, du restaurant La Belle Équipe, l'une des terrasses frappées par les terroristes. Oui. et qui m'a appelé. J'étais à mon domicile à quelques dizaines de mètres de ce lieu. Et en m'appelant, me parlant de ce qui était en train de se passer, j'ai compris, avec ce que j'avais déjà comme information sur le Stade de France,
oui,
que nous faisions face à une attaque multisite.
Il paraît que quand vous avez reçu le SMS de Bernard Cazeneuve, vous avez dit « ça y est, nous y sommes », car vous aviez compris que c'était une attaque d'ampleur qui frappait la France, c'est vrai ?
Oui, à travers ce que me donnait comme information le ministre de l'Intérieur, à travers l'appel de votre confrère, j'ai compris que ce que nous craignions, ce que nos services craignaient, c'était une attaque multisite. À ce moment-là de la nuit, nous n'avions pas encore toutes les informations. L'attaque du Bataclan n'avait pas commencé. Mais tout au long de la nuit, avec les informations qui remontaient, avec l'horreur de ces attaques, nous avons compris que c'était un acte de violence incroyable, un acte de guerre.
Manuel Valls, il se dit aussi qu'en coulisses, c'est vous qui avez pris les commandes d'une certaine manière, même si François Hollande était évidemment présent. C'est vous qui avez, par exemple, décidé de décréter l'état d'urgence.
Non, mais c'est le respect tout simplement de nos institutions. François Hollande était au premier rang et vous savez que avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, tout au long de cette période, nous avons travaillé de manière très étroite. Mais c'est vrai que j'avais une note qui avait d'ailleurs été relue par mes collaborateurs le matin même sur ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait enclencher face à ce type d'attaque. Et il y avait évidemment ce que nous n'avions pas fait au mois de janvier, la mise en œuvre, la mise en place de l'état d'urgence, tout simplement. Pourquoi ? Bah parce qu'on avait compris qu'il y avait des groupes sur Paris, que d'autres attaques pouvaient avoir lieu, et donc il fallait sécuriser au maximum et le plus vite possible la capitale.
Et vous dites, ce type d'attaque, aujourd'hui, est encore possible ?
Oui, d'une autre ampleur, peut-être avec moins d'organisation, puisque l'État islamique a été défait en Syrie et en Irak, mais il a encore cette capacité de frapper. Regardez ce qui s'est passé à Vienne. Et puis surtout, nous avons plusieurs milliers de personnes radicalisées dans notre pays, dans les quartiers, dans nos prisons. Donc le risque est là, nous l'avons vécu. Et c'est pour cela que je dis, et je disais à l'époque, et je le répète, malheureusement, cette guerre sera longue.
Bien. À titre personnel, Manuel Valls, comment cet événement vous a changé et a peut-être aussi changé le regard que vous portez sur la société et ce qu'elle a de plus sombre ?
On ne sort pas indemne, forcément, même si ma première pensée en répondant à cette question, elle est toujours pour les victimes et les blessés. Je visitais les hôpitaux quelques semaines après, je rencontrais ces jeunes détruits par des balles de Kalachnikov, et je pense à eux au moment où je vous parle. Ils sont en train encore de souffrir dans leur identité, dans leur âme, dans leur chair, surtout. Oui, mais j'ai compris que nous basculions d'époque. C'est-à-dire que nous passions dans un moment où nous pouvions connaître, après une période d'insouciance, je l'avais dit, de nouveau, des formes de guerre. Et surtout, ce qui était terrible, c'est que ça vient toujours de notre sein. C'est pas une guerre qui vient de l'extérieur. Ça vient de chez nous, avec la volonté, en plus, de s'attaquer à ce que nous sommes, une civilisation, une démocratie, une culture, et de nous briser, de créer des ruptures dans notre société.
Bien, merci Manuel Valls d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Oui, ce soir, un concert de Queen on the Stone Age a donc lieu en direct sur YouTube, avec ces quelques notes de musique que vous entendez en hommage aux victimes du Bataclan et des terrasses. Et ce matin, c'est le chanteur Sting qui, sur notre antenne, a rendu un hommage vibrant aux victimes du 13 novembre. C'est à découvrir évidemment sur Europe 1. .fr et sur notre application. La météo à présent avec Anissa, 18h15. Un petit air de printemps, ma chère Anissa, demain.
Oui, dans l'ensemble, ce sera plutôt une belle journée, hein, Julien, après la dissipation des nombreux brouillards, des brouillards, ça fait plusieurs jours que ça dure. Eh bien, le soleil va s'imposer sur une grande partie du pays. C'est dans le nord-ouest, en fait, que le temps sera le plus agité demain, avec une nouvelle perturbation qui arrive. Donc, sur la Bretagne et le Cotentin, désolé demain, mais vous aurez un ciel couvert avec de la pluie. Et attention, du vent sur les côtes qui pourra souffler jusqu'à 80 km/h. En bord de Méditerranée, là aussi, c'est pas terrible. Les entrées maritimes sont nombreuses, du Languedoc à la Provence. Donc ça concerne beaucoup l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var. Le ciel reste couvert, les entrées maritimes sont tenaces. Et sur les Cévennes, nous aurons quelques gouttes. Mais partout ailleurs, sauf la Bretagne et le bassin méditerranéen, partout ailleurs...
Il y a toujours des exceptions avec
vous,
quand même.
Ouais, pas toujours, c'est la météo, qu'est-ce que vous voulez. Partout ailleurs, c'est le printemps. Profitez-en parce que dimanche, vraiment, le temps va se dégrader. 5 à 13 degrés demain matin, c'est très doux. Et 15 à 21, on est encore bien au-dessus des normales de saison pour l'après-midi.
Voilà, on ouvre les fenêtres, on reste chez soi et on est tout européen.
Exactement.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité donc à 18h20, le numéro 2 du géant de l'assurance, AXA, qui est en ce moment, on l'a compris, dans la tourmente. Les procédures judiciaires se multiplient, vous l'avez entendu dans le journal, car AXA refuse de rembourser les pertes liées aux fermetures administratives du Covid et s'est lancé dans une campagne de renégociation de contrats professionnels en excluant donc le risque Covid. Bonsoir Guillaume Bory.
Bonsoir.
Directeur général délégué d'AXA France, merci d'être avec nous. Pour répondre à ce coup de colère, c'est vrai, du grand chef Yves Candebord, qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui était ce matin sur notre antenne au micro d'Europe 1. Alors que lui répondez-vous ce soir, Guillaume Bory? N'est-ce pas là le rôle d'un assureur d'accompagner ses clients quand ils traversent une tempête?
Si, bien sûr, le rôle de l'assureur, c'est exactement cela, mais à condition que nous soyons en mesure de le faire d'après ce que nos contrats disent.
Oui.
Et vous comprenez bien que l'assurance, le principe, c'est que ça fonctionne quand il y a une majorité de biens portants et quelques-uns qui ont des difficultés. Quand le risque est généralisé, comme ce que nous connaissons depuis mars dernier, pour la première fois dans l'histoire depuis 100 ans, quand on est dans cette situation, l'assurance ne sait pas faire. On ne sait pas couvrir un risque qui fait que tout le monde est touché en même temps.
Oui.
Et donc c'est exactement ce qui se passe et c'est exactement ce que disent nos contrats. Ils disent... lorsqu'il y a une fermeture généralisée, dans le cas des restaurateurs, eh bien, malheureusement, vous n'êtes pas couvert.
Bien, on va rentrer dans le détail, Guillaume Bory, des contrats. J'en ai consulté certains aujourd'hui, mais simplement, de façon générale, il y a beaucoup de restaurateurs, vous savez, de commerçants qui nous écoutent au micro d'Europe Soir actuellement. Donc, vous leur dites, si vous êtes assuré chez AXA, il n'y aura pas de remboursement pour les fermetures administratives, il n'y aura pas de remboursement lié au Covid pour les pertes qui sont engendrées pour leurs établissements.
Alors vous avez dit très clairement, parce que la réponse elle peut pas être oui ou non, ça dépend du contrat. Et vous avez dit très clairement la garantie, c'est la garantie fermeture administrative. D'accord, il y avait environ 20 000 restaurants en France qui sont assurés par AXA France avec cette garantie. C'est une garantie que sinon... la très grande majorité de nos clients n'ont jamais souscrite parce qu'ils n'avaient pas ce risque de fermeture administrative.
Oui.
C'est un risque qui est très lié à l'activité de restauration.
Oui.
Donc il faut comprendre que d'abord ça concerne un tout petit nombre de nos clients.
Combien précisément ?
Nous avons 7 millions de clients. Bah, nous avons 7 millions de clients et ça concerne 20 000 d'entre eux. Ça c'est
oui,
d'abord
vous n'avez
la
pas
réalité
7 millions
du débat
de clients restaurateurs en France.
Ah non, bien sûr
oui,
que non.
Mais
on a 20 000
restaurants
et ces restaurants... Ah ben ça concerne la totalité des restaurateurs qui sont assurés par AXA France parce que la garantie fermeture administrative, c'est une garantie qui est liée à l'activité de restauration.
Oui.
Et ensuite, comme je vous le disais, cette garantie, nous expliquons dans nos contrats de manière très claire qu'elle ne fonctionne pas lorsque la fermeture administrative elle est généralisée.
Oui.
Si vous avez un événement qui concerne votre restaurant individuellement, là vous êtes couvert. Et nous avons couvert, au cours des 20 ou 30 dernières années, de nombreux restaurants qui ont subi une fermeture administrative individuelle.
Alors,
Mais si tout le monde est fermé en même temps, vous n'êtes plus couvert.
Guillaume Bory, moi je ne suis pas spécialiste évidemment de l'assurance, mais j'ai quand même épluché quelques contrats cet après-midi, des contrats multirisques professionnels. Et il est, c'est vrai, marqué noir sur blanc que la perte d'exploitation suite à une fermeture administrative est bien prise en charge par AXA. Et dans les conditions spécifiques, apparaît le mot « épidémie ».
Oui, tout à fait. Mais si vous avez lu le contrat, vous avez vu qu'il y a ensuite un paragraphe qui dit que cette couverture ne fonctionne pas lorsque plusieurs établissements sont fermés pour exactement le même motif. Et c'est ce que je vous expliquais.
Oui.
L'assurance ne peut pas fonctionner quand le risque est généralisé. Et votre confrère l'a indiqué tout à l'heure, aucun assureur ne peut couvrir seul un événement comme une pandémie qui touche le monde entier. Rendez-vous compte, pendant plusieurs mois, l'activité économique dans le monde entier a été arrêtée.
Bien sûr, et on suit ça évidemment dans l'actualité depuis de nombreux mois, car ça touche évidemment tous les Français. Mais vous comprenez quand même que ce soir, les restaurateurs, ils se sentent abandonnés, les assureurs, ils sont là pour couvrir des événements par définition imprévisibles, par définition exceptionnelles. Quand vous dites aux restaurateurs qui paient chaque année des milliers d'euros pour être assurés, désolé, mais ça n'était pas prévu, donc on ne paiera pas.
Mais la colère et la détresse des restaurateurs, évidemment que je la comprends. Ils sont confrontés à une situation qui est absolument terrible, qui dure maintenant depuis mars dernier, et dans la situation dans laquelle aujourd'hui, ils font partie des professions qui sont les plus durement touchées. Évidemment que je la comprends. Mais la situation ensuite, c'est que nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de l'ensemble de nos assurés d'appliquer ce que disent nos contrats. Si vous avez signé un contrat qui vous dit que ce risque-là n'est pas couvert, si je prends la responsabilité de vous indemniser, Ça veut dire que je dois appliquer ça pour l'ensemble de la communauté des assurés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 7 millions d'assurés. Je vais faire, si vous me permettez, en quelques secondes, une analogie. C'est comme si, soudainement, pour un régime d'assurance que tous les Français connaissent, qui est l'assurance retraite, eh bien, il n'y avait plus personne qui travaille et le système d'assurance retraite survivrait seulement par les retraités. Évidemment, ça n'est pas possible. C'est la même situation. Là, tout le monde est à l'arrêt.
Oui,
donc,
mais...
Et c'est pour ça que notre contrat dit très explicitement, si la fermeture est généralisée, on ne peut pas, malheureusement, couvrir.
Mais
parce que ce risque, il n'est pas assurable
seul.
Et c'est pour ça.
Guillaume Bory, vous avez pourtant une situation financière confortable chez AXA, plus de 73 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. D'ailleurs, lors de votre dernière communication financière, vous avez dit aux investisseurs, pour AXA, l'impact de cette seconde vague sera limité. Les mauvaises langues pourraient vous dire, logique, vous n'indemnisez personne.
Mais oui, parce que nous ne pouvons pas indemniser ces situations. Mais monsieur Bugier, si vous prenez les chiffres d'AXA France, nous faisons 26 milliards de chiffre d'affaires par an. L'essentiel de ce chiffre d'affaires, c'est l'épargne que les Français nous confient. Donc, je pense que personne ne nous demande que nous venions utiliser l'épargne confiée par les Français pour indemniser cette situation.
Donc, on touche là les limites de l'assurance.
La question qui
on touche
pose,
là les limites de l'assurance.
Bien sûr, mais tout à fait, l'assurance ne peut pas couvrir un risque qui touche tout le monde en même temps. Et c'est pour cette raison que nous avons, dès le début de cette pandémie, indiqué que malheureusement l'assurance était incapable de faire face à cet événement, que lorsque notre contrat ne le disait pas clairement, bien sûr, nous devions prendre nos responsabilités parce que dans ces cas-là, le doute profite à l'assuré.
Oui.
C'est ce que nous avons fait pour 2000 restaurants en France qui, eux, n'avaient pas un contrat où on avait écrit explicitement qu'on ne pouvait pas les couvrir en cas de risque général.
Oui.
Donc nous avons, chaque fois que nous devions prendre en charge la situation de nos clients, nous l'avons bien sûr fait. C'est notre première responsabilité. Et ensuite, la deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons dit tout de suite, il faut donc maintenant s'asseoir autour d'une table pour imaginer un nouveau système pour l'avenir. Parce que cette situation de pandémie, je pense que nous pouvons tous reconnaître que personne ne l'avait réellement anticipé avec une violence aussi importante.
Donc vous dites quoi ce
donc
soir
nous
vous dites
proposons un régime pour
c'est
l'avenir.
C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'assurer les pertes pour les restaurateurs qui, on le comprend ce soir, ne sont pas couverts par votre contrat d'assurance.
Mais aujourd'hui, c'est une mesure effectivement que les assureurs seuls ne peuvent, à laquelle ils ne peuvent pas faire face.
Mais
il faut trouver d'autres mécanismes.
Pour avancer, quelle solution pour tous les gens qui nous écoutent? C'est au gouvernement d'agir et de...
Mais nous avons proposé pour l'avenir de mettre en place un régime dit de catastrophe exceptionnelle qui est inspiré directement d'un régime que tous les Français connaissent qui s'appelle les catastrophes naturelles et qui fonctionne bien et qui permet effectivement de partager le coût lors d'un événement qui touche tout le monde entre les assureurs qui doivent bien sûr prendre leur part et la collectivité nationale, bien entendu.
Combien d'actions judiciaires, ce sera ma dernière question Guillaume Bory, combien d'actions judiciaires aujourd'hui sont en cours dans lesquelles AXA est impliqué face à des restaurateurs qui demandent d'obtenir réparation?
Écoutez, au cours des derniers mois, là, nous avons eu une vingtaine de jugements. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à nouveau, sur le contrat que vous venez d'évoquer, le tribunal de commerce de Lyon a confirmé que notre contrat ne s'appliquait pas à la situation que nous connaissons.
Oui, mais vous perdez aussi des procès. Le tribunal de commerce de Paris, par exemple, vous a condamné à verser 240 000 euros à titre de provision à 5 restaurateurs, je crois.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous voyez bien qu'il y a une situation de confusion aujourd'hui, qu'on nous en avons donc appelé au cours d'appel et que dans ces circonstances, nous avons engagé une démarche pour faciliter la compréhension de nos garanties. Et donc, nous avons écrit à chaque client concerné pour clarifier la situation pour l'avenir.
Bien.
Parce que la situation actuelle, comme vous venez de le dire, elle sera tranchée par la justice. La situation pour l'avenir, c'est notre responsabilité commune de se mettre d'accord sur ce que nous voulons dire. Et là, je voudrais réagir à ce qui a été dit. Nous ne cherchons pas à dire aux clients, on ne veut plus vous couvrir. On cherche à dire aux clients, nous voulons vous couvrir pour tout ce que nous savons couvrir. Et bien sûr que dès que un jour, nous l'espérons tous, nous serons sortis de la situation issue de cette épidémie, les risques qui pèsent sur les restaurants sont d'une toute autre nature et il faut continuer à les accompagner et nous sommes résolument déterminés à accompagner les restaurants.
Merci infiniment d'avoir choisi Europe 1 pour cette interview vérité, Guillaume Bory, directeur général délégué AXA France. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres, Christophe Lamar.
L'enquête sur l'attentat de Nice, une photo du tueur de Samuel Paty retrouvée dans le portable de l'assaillant de la basilique Notre-Dame, un message audio qualifiant la France France de pays de mécréants a également été retrouvé dans le téléphone du terroriste qui est toujours hospitalisé. Après Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste pourrait se lancer dans la course à la présidentielle 2022. Son secrétaire national Fabien Roussel le dit à l'Humanité, une candidature communiste ne serait pas une surprise. La première banque d'Espagne supprime 4000 emplois. La Banco Santander justifie ses suppressions par l'essor des services bancaires en ligne, transformation que le coronavirus a accélérée. Le prix Nobel de la paix mène à tout, y compris à la guerre. La situation menace de tourner à la guerre civile en Éthiopie depuis que son premier ministre, prix Nobel de la paix l'an dernier, a déclenché une offensive dans le nord-est du pays pour reprendre le contrôle de la région du Tigré. Le concours sera remis le 30 novembre, même si les librairies sont fermées. Le jury du prix littéraire le plus prestigieux anticipe une éventuelle réouverture des commerces, donc des librairies, après le 1er décembre. Et puis pas de 15 de France contre les Fidji dimanche. Le match prévu à Vannes est annulé en raison de cas de Covid au sein de l'effectif fidjien.
Merci Christophe, à tout à l'heure. On vous retrouve à 19h pour le Grand Journal. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce des perturbations dans le Nord-Ouest.
Oui, en particulier sur la Bretagne et le Cotentin. Demain, où une nouvelle perturbation va vous apporter dans ces régions des nuages, de la pluie et du vent. C'est une journée assez agitée. Du Languedoc à la Provence, au bord de la Méditerranée, là aussi beaucoup de nuages à cause des entrées maritimes partout ailleurs. C'est le printemps, voilà, elle est assez simple la météo pour demain. Les températures sont toujours douces, 5 à 13 degrés demain matin et 15 à 21 degrés dans l'après-midi.
Eh bien, on sort les t-shirts.
Ouais.
Merci Anissa, à tout à l'heure, on vous retrouve à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h34, le débat des grandes voix du vendredi avec à mes côtés ce soir l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre.
Bonsoir
Barbara. Éric Scholl, directeur de la rédaction d'Express. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et je voudrais d'abord qu'on évoque ensemble ce documentaire choc complotiste qui fait grand bruit, partagé par des dizaines de milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Hold Up, bourré de contre-vérités, de fake news, présenté comme un film citoyen, musique anxiogène, théorie du complot, tout y est, financé par des plateformes participatives avec près de 300 000 euros récoltés. Et il est aujourd'hui relayé par des personnalités diverses, de Sophie Marceau à Christophe Willem. C'est édifiant, écoutez.
Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharmas, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie.
Alors, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a des vérités et puis il y a des contre-vérités qui se mélangent dans ce film qui dure quand même 2h40. Mais quand même, le propos général, c'est qu'il y aurait un complot mondial caché derrière l'épidémie. Barbara Lefebvre, ça fait un carton sur les réseaux sociaux, ce film. De quoi est-il le symptôme, ce succès ?
Le succès, il est le symptôme du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments factuels qui interrogent depuis le début de cette épidémie, que lorsque des débats contradictoires ont eu lieu, il y a eu un camp, et en l'occurrence, le gouvernement a décidé qu'il y avait un certain nombre de sujets qui ne méritaient pas d'être débattus. Et du coup, ça alimente effectivement, dans les marges, des gens qui ont envie d'obtenir absolument des réponses. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des éléments factuels, des hypothèses qui sont posées, qui sont des hypothèses tout à fait légitimes dans ce documentaire. D'où vient le virus ? Est-ce qu'il y a une politique de la peur ? Est-ce qu'on a favorisé une politique de la maladie plutôt qu'une politique de la santé ? Tout ça, ce sont des questions qui sont légitimes dans le cadre d'une crise sanitaire d'ampleur comme celle que l'on vit. Les réponses qui sont données et surtout la façon dont sont montées l'ensemble des réponses finissent toujours en point de suspension. Il n'y a pas véritablement dans ce film des affirmations complotistes du genre « la Terre est plate », etc. Il y en a quelques-unes. Hein.
Il y en a quelques-unes, quand même.
Il y en a quelques-unes, le Rivotril, qui aurait participé à une forme d'euthanasie légale dans les EHPAD, le fait que des médecins seraient payés pour déclarer des patients Covid qui ne le seraient pas. Il y a des mensonges. La question, pour moi, ce n'est même pas la question du complotisme. Il y a des mensonges dans ce film, et il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui méritent d'être explorés.
Oui.
Le problème, c'est de savoir, est-ce que dans l'espace médiatique aujourd'hui, il y a véritablement la possibilité d'un débat contradictoire, ou est-ce que finalement on n'est pas dans un discours mainstream où tout le monde dit plus ou moins la même chose et que forcément, bah, ça va laisser sur le côté des gens qui ont besoin d'avoir des réponses qui ne sont pas forcément les réponses complexes ou bien les réponses simplistes aussi. Parfois, le gouvernement...
Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a de la place pour le débat. La preuve, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont accusés d'être trop rassuristes, d'autres
trop alarmistes. Oui, mais regardez, les rassuristes,
que...
depuis deux mois, les rassuristes, on ne les voit plus du tout sur les plateaux.
Moi, j'en avais un hier soir sur mon plateau.
Ah,
vous voyez,
voilà, peut-être vous, mais sinon, ils ont quand même déserté les plateaux.
On continue de les entendre. Éric Scholl, réaction. Et c'est vrai que comme à chaque fois...
En même temps, s'ils ont déserté le plateau, c'est parce qu'ils ont raconté tellement d'âneries pendant des mois.
Voilà
qu'il était temps qu'on arrête de les écouter. D'autre part, ce qu'on appelle un documentaire, c'est tout sauf un documentaire. Donc là, il faut rappeler les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'il y a 47 personnes qui interviennent dans ce film de propagande, parce que c'est un film de propagande, et ce n'est pas un documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mmh. Moi, je fais un métier, c'est le métier de journaliste. Le principal de ce métier d'un journaliste, c'est de faire de la contradiction. C'est d'arriver à essayer effectivement de creuser, de trouver. On n'a pas toujours la vérité, donc on la cherche. Et notamment sur ces questions-là, vous avez tout à fait raison, on cherche en permanence à savoir est-ce que l'État s'est bien conduit, est-ce qu'il a mené une bonne politique de santé. C'est des questions qui sont légitimes. Mais arriver avec 47 personnes qui pensent peu ou prou à peu près la même chose. Et le principe des fake news, des fausses informations, c'est précisément d'y mêler du vrai pour essayer de semer en permanence la confusion.
Et d'y mêler, Éric Scholl, des témoignages de personnalités connues, dont l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui a découvert avec stupeur qu'il était dedans, et les propos qu'on lui portait, évidemment coupés, comme ça arrangeait le propos du film. Et comme à chaque fois dans les théories du complot, on se rend compte que le film, en fait, va plus vite que le temps qu'il faut pour démonter ces théories du complot. Emmanuel Dutailly.
Moi, je suis assez stupéfait par cela. Après, ça montre une chose extrêmement importante. Parce qu'on ne sait pas d'où vient ce virus et qu'on n'est pas véritablement capable de l'expliquer, ça génère effectivement beaucoup de peur et l'impression qu'on ment aux gens. Ça pose une grande question sur notre métier de journaliste, ça pose une grande question sur les politiques, sur le fait que la parole, par exemple, politicienne n'a plus de poids. Parce que quand on voit la force de ce documentaire, moi, je suis impressionné par la viralité. Voir que ça a seulement 3-4 jours, le fait que ça monte si vite. Et quand vous disiez tout à l'heure, c'est financé par des plateformes participatives. Non, c'est financé par des gens qui ont donné de l'argent sur ces plateformes participatives. Ça montre bien qu'il y a un nombre conséquent de personnes qui financent ce genre de choses. Ce qui est aussi, je vais utiliser peut-être un mot qui est mal fait, mais ce qui est dangereux à mon avis, c'est que ce documentaire reprend tous les codes du documentaire. Il disait, c'est pas un documentaire, c'est vrai, mais il reprend tous les codes. Comment voulez-vous, quand vous n'êtes pas habitué, vous dire que ce n'est pas un vrai documentaire? Quand vous voyez Philippe Douste-Blazy, moi c'est bien gentil, quand aujourd'hui il dit, je me suis fait avoir, moi j'aimerais bien qu'il nous produise le rush de son interview. C'est-à-dire qu'on voit véritablement les questions qui lui ont été posées à ce moment-là. Parce que quand vous regardez, moi je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'en ai regardé quand même une bonne partie, je vois notamment sa partie à lui. Bah, les questions semblent assez claires et ses réponses sont assez claires. Donc c'est quand même impressionnant sur le manque de foi qu'il peut y avoir dans la parole scientifique et dans la parole politique.
Les complotistes du Covid, on en parle dans quelques secondes. 18h40, vous restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours avec le débat des grandes voix du vendredi. 18h42, Barbara Lefebvre à mes côtés, Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et Emmanuel Dutheil, en charge du service éco d'Europe 1. Et on parle de ce film qui fait grand bruit et qui parle du Covid, en parlant notamment d'un complot mondial qui serait caché derrière l'épidémie par les grands de ce monde. C'est un film évidemment complotiste. Je voudrais qu'on en écoute un nouvel extrait et puis on en parle juste après.
Finalement, il n'est pas dangereux ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, puisqu'on a foutu des saloperies. Mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir.
Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé.
Voilà, on est quand même dans un grand délire. Là. C'est le laboratoire Pasteur qui a fabriqué le virus de la Covid-19 et qui l'a répandu dans le monde entier.
C'est dommage qu'ils ne soient pas capables de trouver le vaccin, du coup.
Pardon ?
C'est dommage, du coup, qu'ils ne soient pas capables de trouver le vaccin.
Mais quitte à l'avoir le fait, il faudrait trouver le vaccin. Cette fausse information-là, elle avait déjà été corrigée, puisque c'était des papiers de l'Institut Pasteur qui évoquaient, en fait, en réalité, le SARS-CoV-1.
Oui. C'est-à-dire, ce sont des documents... Quand on prend tous les exemples du documentaire, enfin du film de propagande, on l'appelle comme on veut, mais tout a été corrigé.
Oui.
Mais c'est la mise en image et le récit qui constitue une force de frappe complotiste inédite.
Et avec les thèmes habituels que l'on retrouve, c'est-à-dire dans ce domaine de la santé, le ministère de la Santé contre ce qu'on appelle le Big Pharma. On retrouve les riches qui sont accusés, forcément, c'est Bill Gates, c'est Davos, etc. On va retrouver l'élite, tout un pamphlet contre l'élite qui a forcément tort. Et si vous voulez, tous ces thèmes-là, on les a entendus depuis déjà plusieurs années, ils sont revenus et on retrouve évidemment les anti-vaccins.
Mais
ce qui me gêne dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que vous dites que c'est des thèmes et ce seraient des thèmes qui seraient forcément faux. Est-ce que vous allez dire que Big Pharma, ça n'existe pas ? Big Pharma, au sens où les grands patrons des laboratoires assemblés dans une même pièce qui complotent, oui, bien sûr que ça n'existe pas. Néanmoins, il y a une réalité qui est celle des marchés financiers liés à la question des laboratoires pharmaceutiques. Bill Gates, vous voulez qu'on parle du vaccin contre le paludisme qui a été une grosse arnaque et aujourd'hui l'OMS a sur les bras des millions de doses de ce vaccin contre le paludisme qui n'a aucune efficacité. Et on va aller faire des campagnes de vaccination en 2020 de ce vaccin que M. Bill Gates a mis en place avec Glaxo.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Bill Gates, c'est aussi celui qui a lutté contre la polio. Nous, on l'a interviewé il y a deux mois. Et à ce moment-là, j'ai largement travaillé sur la grande campagne anti-Bill Gates qui est menée aux États-Unis, en France. On l'entend parler beaucoup en ce moment, mais si vous voulez, ça fait des mois qu'aux États-Unis, cette campagne anti-vax, anti-vaccin et anti-Bill Gates
est menée. On ne peut pas laisser à penser que la Covid est une création du laboratoire Pasteur.
Pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Non, mais ce que je dis simplement, c'est que on dit Bill Gates a prétendu dans une espèce de TED, de conférence TED, voilà, de TEDx, qu'il pourrait y avoir une pandémie. Donc on imagine, dans ce documentaire, ce qui est complètement hallucinant, qu'il avait prévu le Covid, etc. Mais par ailleurs, l'action de Bill Gates et de la fondation Bill et Melinda Gates est tout à fait, elle mérite d'être interrogée dans leur façon de faire de la com sanitaire, dans leur façon de mener leur politique, excusez-moi, de pseudo-vaccination contre le palu en Afrique, qui est en réalité de la com pour M. Bill Gates. Donc, si vous voulez,
je crois pas. Je pense qu'on aimerait avoir une fondation comme ça en Europe, aussi puissante.
Peut-être vous, mais en l'occurrence, si vous êtes capable de faire complètement confiance aveuglément à M. Bill Gates.
Il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément.
Puisqu'apparemment, dire que M. Bill Gates peut par ailleurs avoir eu une politique sur les vaccins qu'on peut interroger.
Mais je suis d'accord avec
vous. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous dire que à partir du moment où on évoque Bill Gates dans le documentaire de façon hors sujet, mais ça n'empêche pas ici, de poser des questions sur la réalité de l'action Bill Gates.
Non, sur Bill Gates, mais simplement, ça raconte aussi un état d'esprit de la société française en ce moment. Sur la défiance, on voit les chiffres sur les vaccins, par exemple, plus de 40% des Français disent qu'ils sont hostiles aux vaccins et qu'ils ne veulent pas se vacciner. C'est quand même incroyable. On pensait que la science était la dernière des institutions dans laquelle les Français accordaient une espèce de crédibilité. Ça n'est plus le cas, non. Emmanuel.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise est un révélateur de toutes les peurs que l'on a pu avoir et qui étaient peut-être plus ou moins enfouies ces derniers temps. Donc effectivement, un doute sur la santé parce que les gens se disent « Mais qu'est-ce qui va être ce vaccin contre le Covid ? Est-ce qu'il va vraiment être fiable ? Est-ce que je ne vais pas tomber malade ? Est-ce que je ne vais pas avoir des effets secondaires ?» Et donc, ça donne un doute global. Vous avez totalement raison. Mais pourquoi aussi on a ça ? Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un message clair et rassurant d'une autorité incontestable. Les Français voient quoi, par exemple, sur le Covid ? Que le gouvernement, mais ils n'y sont pas pour grand-chose, tous les gouvernements dans le monde sont bien pareils. On n'avance pas. Un jour, on se confine, le lendemain, on se déconfine. On nous dit qu'on est bien déconfiné, mais on se rend compte qu'on n'est pas bien déconfiné. Donc, on ne peut pas reprocher à une frange de la population d'avoir des doutes. Et ce qu'elle montre, ce genre de documentaire, c'est une exacerbation, c'est français ça,
oui,
c'est
oui,
ça
oui, on
des,
peut dire
des
ça.
Doutes que l'on peut avoir.
Allez, on marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix, 18h47.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, la suite du débat des grandes voix du vendredi avec toujours l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, et Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1. Et ce soir, on continue d'évoquer le complotisme à travers ce film qui fait grand bruit, je le disais, sur les réseaux sociaux, partagé des dizaines de milliers de fois, des fake news, beaucoup en tout cas, sur une théorie du complot autour de la Covid. Et on entend par exemple dans le documentaire ceci.
Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada.
Où ces camps seront-ils construits ? Combien de personnes seront-elles détenues ? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement ?
Alors, les camps d'internement, en fait, ce sont des chambres d'hôtel, hein, comme ça a été discuté un moment en France, ça n'a pas été appliqué pour d'autres raisons, mais des chambres d'hôtel pour permettre l'isolement. C'est le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a répondu en personne et qui a dénoncé une campagne de désinformation. Donc, on voit bien comment on tord aussi la réalité dans ce film propagandiste. Question pour vous, Éric Scholl, faut-il, par conséquent, légiférer? C'est ce que disait ce matin, qui décidément nous surprend en ce moment, Yannick Jadot, après sa sortie sur les vaccins obligatoires, le député européen Europe Écologie Les Verts, il disait ce matin « Il n'y a aucune raison que ce qui est interdit dans la rue ne le soit pas sur Internet. » Éric Scholl.
C'est-à-dire ?
Pour légiférer, il faudrait interdire ce type de film propagande. Oui.
C'est compliqué, parce que de toute façon, si on l'interdit, il arrivera d'une autre façon. Puis, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de lutter argument contre argument, et notamment lorsqu'on utilise des arguments rationnels. Puisque là, on le voit bien, on est plutôt dans l'irrationnel. On est dans la provocation, dans la montée des peurs. Et donc, essayer pied à pied de répondre à ce type d'argument, c'est aussi accepter, qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, qu'on n'a pas forcément les réponses à tout. Mais au fond, c'est assez logique. Est-ce que vous connaissez un événement qui nous aide, nous tous, autant impacté depuis 50 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale? Aucun. C'est sans doute dans nos vies quotidiennes, venant de l'extérieur, sans doute l'événement, ce Covid, cette crise de Covid qui nous impacte le plus. Donc c'est normal que ça crée à la fois des peurs, des craintes, et en même temps on s'aperçoit, on parlait de la science tout à l'heure, que les scientifiques eux-mêmes débattent. Ils n'ont pas eu une réponse immédiate, ils ne l'ont pas encore aujourd'hui. Oui. On voit, en revanche, il y a une autre façon de prendre le sujet, on peut voir les progrès, tout ce qui a été accompli par les scientifiques depuis le printemps. Les annonces qui ont été faites en début de semaine par Pfizer montrent qu'il y a quand même des progrès vers un vaccin, et c'est une autre façon de prendre le problème qui n'est pas dans le domaine des peurs telles qu'elles sont entretenues.
Mais ce qui est hallucinant, c'est que ça conforte ce qu'on a, d'ailleurs ça fait une passerelle, ce qu'on a observé pendant 4 ans avec Donald Trump aux États-Unis, et ce qu'on continue d'observer dans son élection et le refus d'admettre sa défaite. C'est-à-dire que la vérité n'existe plus, il n'y a plus de vérité.
Et ça, il n'existe plus de vérité. C'est le principe même de la post-vérité dans les démocraties postmodernes. Et ça n'a rien à voir avec le populisme, ni de Trump, ni des complotistes, ni de ceux qui ne croient pas au 11 septembre ou de ceux qui croient que la Terre est plate. On est dans un monde qui est sur des régimes de vérité tout à fait pluriels.
La Terre est ronde, ça c'est une vérité.
Oui, la Terre est ronde, mais si vous voulez, vous pouvez avoir aujourd'hui, quand vous êtes enseignant et que vous avez dans vos classes des gens qui vous expliquent que eux, leurs croyances, leur religion par exemple, leur commande de ne pas croire tel ou tel fait historique ou tel fait scientifique, vous n'avez, je le dis clairement, vous n'avez quasiment pas de prise sur ça, parce qu'eux sont dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la foi ou de la croyance.
Mais donc, ça questionne pourquoi est-ce que ce qui n'est pas vrai est plus séduisant qu'une vérité qui nous est énoncée.
Mais parce qu'aussi, on est dans un espace aujourd'hui, la postmodernité, c'est aussi ça, c'est la mise en équivalence de toutes les paroles. C'est-à-dire qu'avant, l'enseignant, par exemple, avait une forme de parole d'autorité. Le journaliste avait une parole d'autorité. Le politique avait une parole d'autorité. Aujourd'hui, on a décidé, dans les années 80-90, que finalement, toute parole se valait, tout était égal, et qu'il ne pouvait pas y avoir de hiérarchie, parce que toute forme de hiérarchie de parole sous-entendait un dominant, un dominé. Bon. Donc, à partir du moment où on égalise toutes les paroles et où tout se vaut, et Twitter est l'espace où tout se vaut, je veux dire, s'il y a bien un endroit qui est parfaitement égalitaire et aussi parfaitement niveleur et parfaitement stupide, c'est bien, ce sont bien les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas étonnant que tout le monde like Sophie Marceau, Carla Bruni, tout le monde like un documentaire que personne n'a vu, mais ce n'est pas grave parce que c'est le grégarisme de Twitter. Et le grégarisme de Twitter, c'est ça, c'est la mise en équivalence de toutes les paroles. C'est pour ça que je suis très choquée que Yannick Jadot considère que réaction liberticide, on interdit. Mais on n'est pas en URSS. Il n'y a pas de raison d'interdire. Par ailleurs, on n'interdit pas...
Eric Scholl a raison, ça serait contre-productif si on veut...
On n'interdit pas les mensonges de Tahabouaf, donc je ne vois pas pourquoi on interdirait les mensonges de ce documentaire.
Emmanuel Dutheil.
Moi, je trouve ça complètement idiot de vouloir l'interdire. Ce serait la pire des choses, justement. Il faut se saisir de cela pour essayer de débattre fait contre fait avec ce que l'on peut avoir, et en admettant que nous-mêmes, dans ce qui est une position qui semble plutôt commune dans ce studio, on peut se tromper, on peut ne pas tout savoir. Quand vous dites tout à l'heure pourquoi ce qui est vrai ne porte plus, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est faux dans ce genre de sujet. C'est très compliqué d'avoir une position.
Non, mais au milieu du flou, il y a quelques vérités.
Ce qui pose aussi problème, et on en est tous, peut-être là l'exemple immédiat, à chaque nouvelle crise, vous avez des spéciologues qui sortent du banc à 200 et qui connaissent tout, et le lendemain, quand c'est l'élection américaine, on en a à nouveau 200 qui sortent. Je pense qu'on a tout un travail à faire d'autorité. Quand je dis autorité, autorité oui. morale, hein, pas autorité...
Éric Scholl.
Oui, et puis c'est un business assez juteux pour ces spéciologues ou ces spécialistes de tout genre qu'on a vu émerger. Je prends le cas de Christian Perron, qui est présent, très présent dans ce documentaire, et qui a écrit, qui a commis un livre au printemps dernier. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise à propos du Covid ? Son livre s'est vendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires.
100 000
exemplaires. Et voyez que c'est un bon business.
Autant, hein,
c'est un bon business que d'aller à la limite dans les fake news, un peu de vraie information. Et c'est ce que fait ce documentaire.
La une de l'Express cette semaine.
Le livre de Perron n'a pas été attaqué en justice pour des mensonges. Hein.
Good luck. Vous me la montrez.
Good luck avec
un dessin de Donald
Biden.
Trump. Ah non, c'est Joe Biden.
Joe Biden, dans le bureau de la Maison Blanche, mais on voit l'ombre de Donald Trump qui n'est pas loin.
Bien, merci Barbara Lefebvre, merci Eric Scholl, merci à toi Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.